Nathanaël Vitran.
La reprise, but, but, but de Vincent Aubameyang, et le Cameroun qui passe devant, 2-1, à 2 minutes de fin, mesdames, messieurs.
Exactement comme il le fallait, l'équipe de France s'impose, 23-21, face à la Norvège en finale, l'équipe de France, messieurs dames, est championne du monde.
Regardez cette image-là, elle va rester longtemps dans nos mémoires. Un champion comme Usain Bolt qui va quitter le stade blessé, c'est terrible, sur une chaise roulante, c'est terrible.
Bonsoir à tous, pas de débat pour notre dernier rendez-vous de l'année 2017, mais avec le service des sports de RFI, une rétrospective des grands moments de l'année du sport. 4 avis, 4 experts, Antoine Grenier, Éric Mamrut, Martin Guèze et Hugo Moissonnier. Avec eux, nous allons aussi nous projeter sur les événements à suivre l'an prochain, ce qu'ils vous feront vivre sur nos antennes. Et bien sûr, ce sera le moment de désigner les sportifs qui ont marqué l'année. Soyez les bienvenus. Antoine Grenier nous a rejoint en studio. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Nathanaël.
Antoine, vous suivez particulièrement le football africain et les Bleus, l'équipe de France de football pour RFI. Et l'événement de cette année qui a retenu votre attention en 2017, c'est bien sûr la CAN et son dénouement proprement incroyable.
Oui, comme c'est une rétrospective Nathanaël, je vais commencer par un souvenir un peu personnel. Et ce stade de Libreville qui se soulève à la fin de la finale de la victoire camerounaise. J'étais au bord du terrain, derrière le but de Essam El Haddari, le gardien égyptien, et dans ce stade qui est d'une capacité de 32 000 personnes, il y avait 30 000 Camerounais. Le Cameroun et le Gabon sont très proches, donc tous les Camerounais étaient venus pour cette finale voir les Camerounais s'imposer dans un scénario qu'on n'attendait absolument pas. Déjà, on n'attendait pas le Cameroun à ce niveau-là, forcément. Et cette cinquième victoire, elle est obtenue alors que les Égyptiens avaient ouvert le score. Ils étaient favoris. Hein. Eux-mêmes revenaient de nulle part. Ça faisait 7 ans qu'ils n'avaient pas participé à une Coupe d'Afrique. Ils l'avaient gagnée, d'ailleurs, en 2010. Et face à ces Égyptiens qui avaient montré une puissance collective importante pendant la CAN, et ben ce Cameroun, un peu tout feu, tout flamme, qui d'abord égalise par Nicolas Nkoulou à la 59e minute. Alors là, je vous dis pas, j'étais déjà presque sourd. Et ce but de Vincent Aboubakar à la 88e, là, ça a été une folie furieuse dans le stade. Pour notre plus grand bonheur à nous de journalistes, c'est pour ça qu'on va sur ce type d'événement, c'est pour vivre ce type de d'émotion.
Et pour celui de nos auditeurs, évidemment.
Évidemment. Et donc ce cinquième sacre camerounais, il avait une saveur un peu particulière, celle de l'équipe que personne n'attendait. Et ça fait partie des enseignements de cette Coupe d'Afrique là, avec, donc je vous le disais, l'Égypte qui est revenu nulle part, et puis l'émergence aussi du Burkina Faso qui est arrivé en demi-finale grâce à un bon mélange entre la jeunesse et l'expérience d'un Charles Caboret par exemple, et la jeunesse d'un Hervé Kofi, jeunesse un petit peu excessive parce qu'elle coûte l'élimination au tir au but contre l'Égypte en demi-finale, mais ça a été une CAN extrêmement passionnante à suivre, et on attend celle évidemment qui doit théoriquement se dérouler au Cameroun en 2019, même si la nouvelle formule, le passage à 24 équipes qui a été décidé en juillet, va poser quelques problèmes qui eux aussi seront très intéressants à suivre.
Et en attendant, l'an prochain, l'événement football, ce sera bien sûr la Coupe du Monde en Russie.
Ouais, l'événement planétaire par excellence, ça aussi, on rêve de partager ça avec les auditeurs de RFI. Les éliminatoires en eux-mêmes ont été déjà assez passionnants, notamment en zone Afrique, pour donner 5 qualifiés historique, entre guillemets, des habitués de la Coupe du Monde, mais certains reviennent un petit peu de nulle part, un peu comme l'Égypte lors de cette dernière CAN. Les Égyptiens qui seront là pour la première fois 28 ans après leur dernière participation. Ils se sont qualifiés au dernier moment grâce à un pénalty de Mohamed Salah contre le Congo. Donc là aussi, dans les rues du Caire, ça a été la magie comme seul le football peut en apporter. Le Nigeria, qui avait pas pris part aux 2 dernières Coupes d'Afrique et qui parvient à se qualifier pour cette Coupe du Monde. Le Maroc et la Tunisie qui seront les 2 représentants nord-africains. Et puis le Sénégal, le seul pays d'Afrique de l'Ouest. On garde un souvenir ému de leur dernière participation en 2002, cette victoire contre la France, ce quart de finale atteint avec l'équipe de la Diouf et dirigée par Bruno Metsu et Jules Bokandé, les 2 regrettés. On attend de voir ce que cette équipe du Sénégal peut faire, on attend évidemment qu'elles nous surprennent, et pourquoi pas, comme en 2002 quand ils avaient battu la France, pourquoi pas dès leur premier match contre la Pologne.
Alors, dernière question, Antoine, qui est votre sportif de l'année?
Je vais pas être très très original, je vais parler de Kylian Mbappé, la petite pépite du football mondial, qui pour sa première participation à un ballon d'or finit 7e du classement, c'est quand même pas rien.
C'est pas mal. Ouais.
D'autant qu'il a à peine 19 ans, Kylian Mbappé. Il a une ascension absolument météoritique. Sa première saison en club, sa première saison complète en club avec Monaco, il est champion. Il est la révélation. Faut se souvenir que l'année d'avant, il jouait là à Gambardella, qui est la coupe des centres de formation des clubs de Ligue 1. Il la gagne avec Monaco. L'année d'après, il est champion. C'est juste phénoménal. Et quand on ajoute à ça qu'il a connu sa première sélection en équipe de France cette année, en mars 2017 contre le Luxembourg, qui marque son premier but avec les Bleus en août, ben forcément, on attend Kylian Mbappé, l'homme qui vaut quand même 180 millions d'euros depuis son transfert au Paris Saint-Germain. Là-bas, il y a eu quelques excès, il a un peu brouillé son image, il était le petit gendre idéal et il est devenu un petit peu plus arrogant, on va dire, au contact des grandes stars que sont Cavani et Neymar. On attend maintenant de le voir évoluer au niveau international, au niveau mondial, lors de cette Coupe du Monde.
Merci beaucoup Antoine Grenier, on suivra tous ces événements sportifs et la carrière de Kylian Mbappé avec vous l'an prochain.
RFI.
Éric Mamrut nous a rejoint en studio. Bonsoir Éric.
Bonsoir Nathanaël, bonsoir tout le monde.
Éric, vous êtes le spécialiste du tennis à RFI. Quel est l'événement sportif qui vous aura marqué cette année ?
Eh bien forcément c'est du tennis et forcément c'est la victoire de l'équipe de France en Coupe Davis. 16 ans que cette génération, que l'équipe de France dans son ensemble d'ailleurs attendait cela depuis le sacre de Melbourne en 2001. Il y avait eu 3 défaites précédemment. En finale, 3 échecs en 2002, en 2010 et en 2014. En 2015, on avait rappelé le sorcier Yannick Noah pour essayer d'enfin récupérer ce saladier d'argent que Yannick Noah avait remporté en tant que capitaine en 1991 et en 1996. Ça n'avait pas marché en 2016 lors de la première année de son capitanat, défaite en demi-finale en Croatie. Ça a marché en 2017 et c'est la récompense pour cette grande génération des mousquetaires, des nouveaux mousquetaires, comme on l'a appelé il y a quelques années de cela, quand on a vu apparaître les Tsonga, Simon, Gasquet et mon fils. On leur prédisait monts et merveilles, des sacres en grand chelem, en Coupe Davis. Ils n'avaient jusque-là rien obtenu. Eh bien, cette fois, ils ont décroché enfin leur trophée majeur, leur trophée référence.
Et les Bleus ont connu pas mal de réussites hein, dans cette campagne qui a été victorieuse, mais ça n'a pas été simple au départ.
Ça a été plus simple que prévu, en fait. La réussite, vous en parliez, ils en ont eu. Et comment ? Puisqu'ils ont affronté 3 équipes très amoindries avant de se hisser en finale. Le Japon à Tokyo, sans Kei Nishikori, membre du top 10. La Grande-Bretagne à Rouen en quart de finale, sans Andy Murray, le numéro 1 mondial. En demi-finale, la Serbie de Novak Djokovic, eh ben sans Novak Djokovic, tout simplement. Donc forcément, dans ces conditions, c'était beaucoup plus facile. Et pour dire que, en fait, durant toute leur campagne, ils n'ont battu les Français aucun joueur membre du top 40. Le meilleur, c'était Daniel Evans, 46e mondial. C'est leur meilleur perf durant toute cette campagne. Alors on peut dévaloriser un petit peu leur performance, mais les faits sont là. Ils ont eu beaucoup de réussite et en finale, ils n'ont pas réussi à battre David Goffin, le numéro 1 belge, qui a remporté ses 2 simples. La différence s'est faite lors du double, remporté un petit peu à l'arraché par la paire française. Mais bon, il fallait le faire, il fallait gagner ces matchs. Et en fait, la leçon de cette année, au-delà de la réussite, c'est eh bien que l'équipe de France a un vivier très très important. Il n'y a pas que 4 joueurs, voire même 2 comme dans beaucoup d'équipes, ou même un seul leader. Là, ils sont 8 joueurs toute cette année à avoir participé au moins une fois à un match de Coupe Davis et à avoir finalement soulevé le saladier d'argent. C'est le sacre de l'équipe de France dans son collectif et dans sa richesse surtout.
Alors, on va parler de l'année à venir. Qu'est-ce qui s'annonce pour l'année 2018 de tennis ?
L'épisode 10, je sais pas, de la guerre des étoiles, je sais pas le combien, mais en tout cas la guerre des étoiles, c'est sûr, car cette année, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour résumer très brièvement, on a vu le retour des vieux grognards Nadal et Federer qui ont chacun remporté 2 tournois du Grand Chelem, mais il faut dire, en l'absence, quasiment tout du long, en tout cas ils étaient diminués et après forfait, des 2 meilleurs joueurs du monde jusque-là, c'est-à-dire Novak Djokovic et Andy Murray, ils ont été blessés et donc c'était un boulevard ensuite pour Nadal et Federer qui ont su quand même saisir leur chance. Ils ont magnifiquement bien joué. En 2018, Djokovic, Murray vont revenir. Également, Kei Nishikori, Stan Wawrinka, qui aussi était blessé, comme Milos Raonic. Donc, il y aura beaucoup plus de densité et de concurrence. Et ça va nous offrir, normalement, si Nadal et Federer restent à leur niveau de 2017, des matchs, normalement, et des tournois incroyables.
Et on va terminer, Eric, avec le sportif de l'année 2017. Qu'avez-vous choisi?
Bah, pas un joueur de tennis, même si je pourrais choisir Nadal, Federer. Moi, c'est un judoka. C'est le monstre du judo mondial, même pas français seulement. Teddy Riner, c'est un monstre planétaire qui a conquis cette année deux autres titres mondiaux. C'est 9e et 10e couronne mondiale. La décima, il n'y a pas que Nadal qui ait fait une décima à Roland-Garros, et c'était le terme à la mode de cette année, la décima. Teddy Riner a atteint cette décima. 10 titres de champion du monde en poids lourd et en toute catégorie. C'est un monstre à tout point de vue, de talent. 144 victoires d'affilée pour le judoka de 28 ans. Et une sympathie, une gentillesse, une humilité. C'est un exemple pour tous les jeunes de France et du monde entier. Et c'est un sportif qui fait tellement plaisir à voir, à écouter, à côtoyer, que je lui décerne la palme.
Merci beaucoup, Eric Mamrut.
RFI.
Et Martin Guez nous a rejoint en studio du service des sports de RFI. Bonsoir Martin.
Bonsoir Nathanaël, bonsoir à tous.
Et l'un des événements marquants de l'année sportive, ça aura été pour vous les grandes avancées dans la lutte antidopage.
Oui, en premier lieu, ça a surtout été les sanctions du Comité international olympique envers la Russie. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, on va revenir un petit peu sur le rapport McLaren qui met en lumière les pratiques dopantes du pays, surtout entre 2012 et 2014, au JO d'été de 2012, au Mondiaux d'athlétisme de 2013 qui était à Moscou, et surtout au JO d'hiver à Sochi en 2014, où ça avait démontré que les services secrets étaient intervenus, qu'on avait détruit des échantillons pour berner l'Agence mondiale antidopage. Et en 2016, 118 athlètes russes avaient été exclus déjà des Jeux de Rio par le CIO. Cette année, ils ont été encore plus loin, le CIO. Ils ont décidé qu'il n'y aurait aucun drapeau russe, aucun athlète représenté sous drapeau russe. Ceux qui pourront participer le seront sous drapeau neutre.
Sous la bannière olympique.
Ouais. Sous bannière olympique, exactement. Et ils devront absolument prouver qu'ils sont propres, qu'ils n'ont pas utilisé de produits dopants. Ça pourrait être le cas, par exemple, de certains patineurs qui, eux, n'ont jamais, par exemple, été cités, comme Evgenia Medvedeva, qui est promise au titre olympique.
Mais cette suspension, c'est surtout un énorme coup dur pour la Russie, un coup dur pour Vladimir Poutine, mais surtout pour Vitaly Mutko. Vitaly Mutko, il était ministre des Sports au moment du scandale de dopage d'État. Il en était même l'un des principaux instigateurs. Il a été banni à vie par le Comité international olympique de toute participation au JO. Vitaly Mutko, comme aucun officiel russe, ne pourra participer aux prochains Jeux Olympiques en février à Pyeongchang en Corée du Sud. Il aurait pu se consoler avec l'organisation du Mondial en Russie. Lui, il cumule les casquettes, mais il vient de démissionner du comité d'organisation. Il en était le président. Il a aussi mis en parenthèse ses fonctions de président de la Fédération de football en Russie. Vitaly Mutko, il reste tout de même le vice-premier ministre de la Russie en charge des sports.
Alors tout de même, l'absence des Russes aux prochains Jeux Olympiques d'hiver, elle doit réjouir les Norvégiens, les Canadiens, les Américains. Les JO d'hiver, c'est l'événement sportif de l'année à venir que vous avez choisi de commenter, Martin.
Et oui, l'absence de la Russie, c'est vraiment une aubaine pour ces pays-là, puisque la Russie, on le rappelle, à Sochi, avec toute cette organisation de dopage d'État, ils avaient eu des résultats absolument exceptionnels. Ils avaient terminé premier au classement des médailles. Ils avaient gagné 33 médailles, dont 11 pour l'instant étaient retirées. Et c'est des Jeux Olympiques qui arrivent en Corée du Sud en février 2018, qui s'annoncent dans un climat assez tendu. Il y a seulement 80 kilomètres qui séparent Pyeongchang et la frontière avec la Corée du Nord. On sait qu'il y a un contexte d'escalade de la violence entre Corée du Nord et les États-Unis, mais entre les soupçons de dopage et la crainte d'une guerre nucléaire, il y a bien une compétition sportive qui va se disputer.
Quand même.
Et du côté français, on va attendre encore une fois des merveilles du biathlon. C'est toujours le sport phare pourvoyeur de plus de médailles. Avec évidemment Martin Fourcade, qui est le porte-drapeau de la délégation. Martin Fourcade qui a déjà gagné 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent lors des précédents Jeux Olympiques, qui là va viser tout simplement 4 médailles d'or sur les 4 épreuves, même s'il va être contesté. Et du côté des femmes, on va attendre l'affrontement de génération entre deux Américaines, Lindsey Vonn et Mikhaïla Shiffrin qui vont s'affronter sur la descente.
Et on termine par une retraite, un monstre du sport mondial s'en va, le roi Usain Bolt, c'est votre sportif de l'année.
Ouais, la dernière image qu'on va garder en tête du roi Usain Bolt, de la foudre, c'est cette blessure, il n'a pas pu terminer le 4x100 mètres, le relais, on l'a vu claudiquant sur la piste d'athlétisme de Londres, où il a été touché à la cuisse gauche, c'est ça qu'on va retenir de lui comme dernière image. Il restera en tout cas comme l'homme le plus rapide du monde, 9 secondes 58 sur 100 mètres, 19-19 sur le 200 mètres. Bolt, c'est un palmarès hors norme, il a gagné 8 titres olympiques, 11 médailles d'or mondiales, c'est vraiment le roi absolu du sprint sur le 100 mètres, le 200 mètres et le 4x100. C'est surtout une icône médiatique, une bête de scène, on retiendra tous ces célébrations que les enfants reproduisent, mais il a sûrement disputé la compétition internationale de trop. À 31 ans, il a fini troisième du 100 mètres à ces mondiaux de Londres. Et il laisse un immense vide puisque l'athlétisme perd sa plus grande star des 10 dernières années. Bolt qui pouvait remplir des stades juste sur son nom et qui sera très difficile à remplacer.
Merci beaucoup Martin Gazon. On vous retrouve l'an prochain pour continuer de suivre avec vous l'actualité sportive.
RFI.
Hugo Moissonnier nous a rejoint en studio. Bonsoir Hugo.
Bonsoir Nathanaël, bonsoir à tous.
Alors que retiendrez-vous de cette année sportive ?
Eh bien les performances des équipes de France de handball. L'année a bien débuté avec un titre acquis à domicile pour les Français. Alors on est habitué à voir l'équipe de France masculine de handball remporter un tournoi international. Ils se sont imposés en finale face à la Norvège. Alors petite nouveauté pour une équipe qui a tout gagné ces 10 dernières années. Petite nouveauté, ce n'était plus Claude Onesta, hein, le coach emblématique des experts qui était sur le banc. Il a pris un peu de recul, il a dans l'encadrement des Français, c'est deux de ses anciens protégés, Didier Dinard et Guillaume Gilles, qui ont mené les experts à un nouveau titre mondial, la preuve qu'il y a des ressources au sein du handball masculin français. Et puis chez les femmes, c'est plus rare de les voir gagner leur deuxième titre mondial simplement. C'était il y a quelques semaines en Allemagne, victoire face à la Norvège, une des meilleures nations, et ça s'inscrit dans la continuité de leurs récentes bonnes performances puisqu'elles avaient notamment atteint la finale du tournoi olympique à Rio en 2016.
L'équipe à suivre l'an prochain, Hugo, pour vous, ce sera le 15 de France de rugby.
Oui, exactement. Pourquoi ? Parce que le 15 de France vient tout simplement de changer de sélectionneur après une année 2017 catastrophique sur le plan des résultats et sur le plan du jeu, avec notamment une tournée d'automne complètement ratée. Elle a coûté sa place à Guy Noves, un grand manager français, mais qui n'aura pas convaincu sur le banc des Bleus. Pour le remplacer, Jacques Brunel, un entraîneur, lui, un sélectionneur très expérimenté, qui a notamment été sélectionneur de l'Italie et qui devra redonner un souffle à cette équipe de France, notamment lors du tournoi Destination qui débute début février. Mais le véritable objectif pour la Fédération française, c'est bien évidemment de commencer déjà à préparer 2023, parce que ça aurait été quand même l'une des rares satisfactions du rugby français ces derniers temps, l'obtention de l'organisation de la Coupe du Monde 2023, un peu à la surprise générale. Il va falloir commencer à préparer tout ça. Les maux du rugby français sont profonds, ils dépassent largement la question du sélectionneur, mais on va vouloir déjà impulser un renouveau avec Jacques Brunel, donc comme sélectionneur du 15 de France.
Dernière question, Hugo, quel est le sportif de l'année que vous avez choisi ?
Un cycliste africain, Luis Mentiès. Il est sud-africain, il a terminé 8e du dernier Tour de France, 12e du dernier Tour d'Espagne. 8e du dernier Tour de France, c'est simple, aucun cycliste africain n'avait réussi une telle performance. Il l'avait déjà réussi, lui, cette performance en 2016. Luis Mentiès, c'est tout simplement le symbole d'un cyclisme africain qui progresse. Et tout un symbole, en 2018, il va, Luis Mentiès, porter les couleurs d'une équipe africaine. Il revient à la maison, il va courir pour Dimension Data. C'était déjà son écurie il y a quelques années. Une équipe sud-africaine qui est la seule du continent à faire partie de l'élite du cyclisme mondial. On va observer ses performances sur le Tour d'Espagne, sur le Tour d'Italie. Il a dit que c'était ses principaux objectifs. On verra également ce qu'il fera lors des prochains championnats du monde. Luis Mentiès, qui s'impose comme une valeur sûre du cyclisme mondial, au-delà même d'être une valeur sûre du cyclisme africain. Luis Mentiès, qui a récemment d'ailleurs été désigné cycliste africain de l'année, un prix mis sur pied par les organisateurs de la Tropical Emissa Bongo. C'est l'une des courses cyclistes les plus prestigieuses sur le continent africain et c'est la deuxième fois qu'il remporte ce prix, Luis Mentiès.
Voilà pour cette rétrospective sportive de l'année 2017. Merci à Antoine Grenier, Eric Mamrut, Martin Guez et Hugo Moissonnier que vous retrouverez bien sûr l'an prochain. Ils continueront de vibrer et de nous faire vibrer sur RFI. Merci également à Florence Ponce, Arthur Tossou et au service documentation de RFI pour leur aide dans la préparation de cette émission. À la réalisation, il y avait Étienne Bertin et Joseph Rouzeau. Merci aussi à eux. Dès lundi, vous retrouverez Guillaume Nodin, fidèle au poste. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin d'année à l'écoute de la Radio du Monde.